France Culture. Continent Science, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les arbres sont des êtres vivants majestueux, ou en tout cas presque toujours. De prime abord, leur aspect semble simple, et si aucun vent ne vient les secouer, ils expriment un calme souverain. Pourtant, ces êtres, souvent de la pure verticalité, sont aussi complexes. Complexes dans leur généalogie, bien sûr, mais aussi dans leur architecture, leur croissance, leur sexualité, leur répartition géographique. Pour ce rendez-vous de Continent Science, nous nous proposons de construire un éloge de l'arbre, éloge scientifique, mais aussi anthropologique, d'où cette question prise en plus d'un sens, origine écologique, origine arboricole, et si, en définitive, nous descendions tous de l'arbre. Notre guide Francis Allais, il est botaniste.
Bonjour.
Bonjour Francis Allais. Première question d'abord, puisque de toute façon on essaye à chaque fois, dans ces débuts de ces rendez-vous de Continent Science, de retrouver, de comprendre le parcours dit académique, ou en tout cas universitaire, scientifique, de recherche. Qu'est-ce qui vous a fait vous tourner vers la botanique tropicale ?
Écoutez, quand j'étais étudiant, c'est une vieille histoire, hein. Quand j'étais étudiant, je m'intéressais plutôt aux animaux, comme la plupart des étudiants et des étudiantes. Et puis un jour, j'ai vu pousser une plante sur mon balcon au Quartier Latin, une plante dont je ne m'étais jamais occupé et qui a poussé spontanément dans un vieux pot de terre, là. Et je l'ai vu pousser, fleurir, donner des graines, se ressemer. Et je me suis dit, ça, c'est totalement magique. Si j'avais des animaux sur mon balcon, il faudrait que je les nourrisse, que je retire leurs excréments, que je supporte leurs cris, et puis je vais m'y attacher, bien sûr. Et le jour où l'animal va mourir, j'en serai très triste. Non, la plante, il y a quelque chose de magique. Et ça m'est venu très tôt, ça ne m'a jamais quitté.
Eh oui, et ça vous a conduit d'ailleurs dans des voyages de recherche lointains. On en verra quelques exemples dans la suite de notre conversation.
C'est vrai que les plantes, si on veut les voir dans ce qu'elles ont de mieux à offrir, c'est les tropiques humides. Et donc, c'est bien normal que je sois devenu tropicaliste.
Alors, au début, on va jouer, vous avez dit plantes, on a dit arbres. Quels sont les critères qui permettent de dire que on est face à un arbre ?
Pour savoir si une plante est un arbre.
Oui.
Oui, c'est un vieux débat. La définition de l'arbre n'est pas commode. Il faut qu'il y ait un tronc. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des branches. Si vous avez un palmier, c'est un arbre, mais c'est un arbre qui n'a pas de branches. Il faut
une grande hauteur.
Il faut que ça soit grand. Mais alors, que veut dire oui, grand? Si nous étions des pucerons, c'est clair qu'un pied de fenouil, ça serait grand, donc ça serait un arbre. Donc il faut dire grand par rapport à nous autres êtres humains. Ça va peut-être choquer les puristes, mais je crois qu'il faut inclure dans la définition de l'arbre une référence qui est la dimension humaine. Et dans le domaine de la longévité, c'est pareil. Un arbre vit longtemps. Longtemps. Que veut dire longtemps? Longtemps par rapport à nous.
Oui.
C'est la définition que je propose.
Donc trois critères, la hauteur au-dessus du sol, l'existence d'un tronc et l'existence de branches et la longévité.
Et la longévité.
Voilà. Ouais. Alors, autre critère, souvent on entend parler par contraste avec les plantes stricto sensu, le caractère de l'arbre qui est un être ligneux.
Écoutez, d'abord, je voudrais dire que
ça
les
vous plaît
arbres
pas beaucoup,
sont
ça.
Des plantes, bien sûr.
Oui, oui.
Ça fait partie, tout ça, du royaume des plantes. Non, le caractère ligneux ne me convainc pas parce que l'énorme majorité des plantes ont de la lignine et sont donc ligneuses, même une violette. C'est pour ça que je préfère ne pas accorder trop attention à ce domaine-là. Il faut par contre que ça soit solide, puisque s'il est grand et vertical, ça suppose une rigidité indiscutable. Les biomécaniciens travaillent là-dessus. Il faut que ça soit solide.
D'ailleurs,
mais pas forcément avec du bois. Voilà.
Ouais. Et à la fin de l'ouvrage, on peut passer tout de suite à la fin pour rester dans le droit fil de votre propos actuel, de ce livre donc que vous avez publié chez Actes Sud qui s'appelle « Plaidoyer pour l'arbre ».
Oui.
ce qui me motivait à parler d'un éloge, évidemment, parce qu'il y a ça qui court comme un fil rouge sous votre propos. Vous jouez à proposer de manière malicieuse, c'est une sorte de fable, à des architectes de grand talent, quelque chose qui correspond aux critères de l'arbre.
Oui, et bien
les maîtres de l'architecture deviennent complètement fous.
Et puis ils en sont incapables.
Oui,
il n'y a pas d'architecte actuel qui soit capable de construire un arbre.
Faites-moi quelque chose qui soit capable de se reproduire quand il y a un accident sur le haut de sa frontaison.
Alors, on en est encore très loin, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Alors, il y a une approche, qu'on va dire, architecturale. Et une chose curieuse, Francis Allais, c'est que ils portent tous d'ailleurs des noms propres, ces modèles architecturaux, qui sont une sorte de référence à des scientifiques qui les ont découverts, peut-être décrits, vous allez nous le dire. Il y en a 22 de modèles.
Oui, 22, oui.
Oui. Et qui sont complexes, et qui ne se ressemblent pas.
Ah non, 22 formes de croissance qualitativement différentes, on ne peut pas les confondre. Eh bien, pour l'instant, le défi est celui-là. La totalité des arbres, c'est ce que je propose, tiennent dans l'un ou l'autre de ces 22 modèles. Pourquoi 22? Je n'en sais rien.
Oui.
Ça pourrait être 48. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. D'autant plus que si je prends simplement un papier, un crayon, et que j'arrive et que j'essaye d'en dessiner, je peux vous en trouver beaucoup plus que 22.
Oui.
Et qui ne semblent pas inférieurs aux autres a priori. La nature, semble-t-il, ne les a pas réalisés. Elle s'est limitée à ces 22.
Oui.
C'est un vrai problème.
Oui, parce qu'on pourrait imaginer que des algorithmes informatiques,
fait,
c'est le cas
tout
d'ailleurs,
fait, tout à fait,
produisent, vous parliez d'un petit crayon avec lequel vous pourriez dessiner.
On peut le faire sur l'ordinateur.
On peut le faire sur
l'ordinateur. On peut en produire des centaines des modèles de croissance.
Oui, et ça s'est restreint à ce chiffre.
Oui, enfin, on ne peut pas affirmer qu'on ne va pas en trouver des nouveaux.
Oui.
Mais je suis persuadé que ça ne sera jamais plus qu'un ou deux.
On ne va pas faire de pythagoricisme, mais donc ça reste quand même une énigme.
C'est très étonnant. Et dans la plupart des grandes familles de plantes, on retrouve cette gamme de modèles.
Alors vous rappelez aussi que, évidemment, la plus grande gamme de modèles présents qui poussent, que l'on peut voir, se trouve dans la région tropicale ou intertropicale équatoriale.
Équatoriale, oui. Tropicale humide, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Tropicale humide. Partez de l'équateur, c'est là que vous les trouvez tous, en mélange.
Et que plus on va monter dans une direction plus haute latitude, en montant de façon soit en direction septentrionale ou l'inverse.
Soit vers le sud, il y en a de moins en moins.
Oui. Alors, les formes sont plus réduites.
Il peut y en avoir moins parce qu'il y a moins d'espèces.
Oui.
Mais je crois qu'il y a un autre problème, c'est aussi que les formes adaptées à l'environnement, elles seront moins nombreuses aux hautes latitudes.
Oui. Ça a été un travail difficile d'élaborer cette sorte de répertoire des architectures.
Ben, je crois que ça m'a occupé toute ma vie scientifique. C'est pas terminé. Je suis encore en train de travailler là-dessus, bien entendu. Ce que je voudrais, c'est comprendre comment un groupe d'arbres arrive à former comme ça plusieurs formes de croissance différentes. C'est un problème génétique, mais les généticiens ne s'y sont pas encore intéressés parce que c'est pas très facile de trouver des mutations, des marqueurs génétiques utilisables. Je pense cependant que c'est un des avenirs de la recherche en biologie végétale, ça.
Vous introduisez, Francis Allais, aussi une idée très très intéressante, qui est que, d'une certaine manière, et vous allez expliquer le détail, évidemment, un arbre semble, en première apparence, un individu singulier, avec une sorte d'unicité.
Unitaire, oui.
Voilà,
oui.
Unitaire. Mais vous parlez, en fait, d'arbres qui seraient colonières.
C'est d'une extrême importance pour moi.
Oui.
Il y a les deux.
Hmm.
Si vous connaissez la Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins, là vous avez des araucarias. Ça, c'est unitaire.
Oui.
On pourrait à la limite les appeler des individus. C'est des splendeurs. D'ailleurs, les arbres unitaires sont généralement les plus beaux, les plus utilisés dans l'ornementation. Mais ils sont minoritaires cependant, et la plupart des arbres sont colonières. C'est-à-dire que quand vous faites germer la graine, vous avez une unité au début, qui est un des modèles architecturaux, un des 22. Et puis, au lieu que ce modèle-là grandisse, vous en voyez apparaître d'autres, identiques au premier, mais sur le côté. Et puis, à mesure que le temps passe, vous avez une association de plus en plus riche de ces copies, ces nouvelles copies du modèle. Je crois que le terme de colonière s'applique parfaitement. Alors c'est un terme venu de la zoologie, hein, je précise.
Oui, parce que ça fait évidemment penser, et là c'est où la chose est la, peut-être la plus extrême, à ces physalies que l'on croit des méduses qui n'en sont pas, et où on voit cette chose tout à fait surprenante, où c'est une colonie d'individus extraordinairement spécialisés. Oui. Ainsi, il y a des individus qui sont en charge de la fonction reproductrice, des individus qui chassent, qui pêchent, qui digèrent.
Donc c'est une colonie. Eh bien, cependant, prenons l'exemple de la physalie, vous avez aussi une sorte d'unicité globale au-dessus de tout ça. Eh bien, l'arbre, c'est pareil. Vous avez l'arbre qui semble être un individu, mais qui n'en est pas un. Du reste, le fait que ce ne soit pas un individu, c'est assez clair. Individu veut dire indivisible.
Oui.
Et si vous me donnez le temps et une paire de sécateurs, moi, avec un arbre, je vous en fais des milliers. Tous viables. Oui. Donc, ce n'est pas indivisible. Donc, ce n'est pas un individu.
Vous avez des exemples pour les arbres colonières ?
Simplement les platanes de long de nos rues dans le Midi ou les peupliers du bord de la Seine. La plupart des arbres sont colonières. Quand on arrive à les comprendre et à s'éduquer l'œil, on le voit très facilement.
Alors il y a une notion que je ne connaissais évidemment pas, qui s'appelle l'unité réitérée.
Eh bien, c'est l'unité dont la répétition forme la colonie.
D'accord.
Cette répétition, nous l'appelons réitération. On pourrait l'appeler répétition, ça revient au même. Le modèle architectural se répète, et les uns sur les autres, comme ça, collectivement, ils forment un grand arbre.
Autre question qui était liée à une question précédente, qu'est-ce que le cambium ?
Le cambium, ça c'est propre à certaines catégories d'arbres, pas tous. C'est un dispositif anatomique fait de cellules embryonnaires en forme de cylindres creux à l'intérieur du tronc. Et le fonctionnement de ces cellules embryonnaires ajoute de nouvelles cellules et par conséquent est responsable de l'accroissement en diamètre du tronc. Ça, c'est le cambium. Alors, tous les arbres n'ont pas de cambium. Si vous avez un palmier, il n'y a pas de cambium. Et de fait, son tronc n'augmente pas de diamètre avec le temps. Par contre, les gymnospermes, les résineux, ou bien ce qu'on appelle ici les feuillus, sont des arbres à cambium. Vous les semez, ils sont très fins au début. Vous revenez 10 ans après... Cette chose fine est devenue un gros tronc. C'est grâce au cambium.
Gymnosperme, pardon, Francis Allais. Pas de fruits.
Les résineux, oui, pas de fruits.
Pas de fruits,
Et simplement... Les graines nues.
Graines nues.
C'est ça que ça veut dire,
gymnosperme. D'ailleurs. Oui. Bien sûr. Les racines, parce que...
Ah mon Dieu. C'est certainement ce qu'on connaît le moins chez les plantes en général et chez les arbres en particulier. Il faut dire que les rares qui se sont lancés là-dedans ont réalisé que c'était un travail absolument énorme. Mais c'est passionnant aussi, et dès qu'on met à jour les racines d'un arbre, on trouve des choses intéressantes. On s'aperçoit que c'est l'essentiel. Vous savez qu'un arbre, c'est beaucoup plus souterrain qu'aérien.
Oui.
On ne le sait pas, on ne le voit pas, mais... La biomasse souterraine est souvent beaucoup plus forte que l'aérienne.
Vous donnez un exemple, Francis Allais, d'ailleurs.
J'ai vu, dans les régions sèches, vous avez des petites plantes qu'on hésiterait presque à appeler des arbres, parce que ça n'a que 2-3 mètres de haut. Mais par contre, si vous regardez les racines, elles ont 60 mètres de long.
Donc ça fait un arbre de 62
voilà,
mètres
c'est
de
ça.
Haut, en fait.
Oui, ça devient réellement un arbre.
C'est comme si on compte la partie immergée, la partie émergée de
l'iceberg.
Oui, ou des îles, par exemple, à Hawaï.
C'est pareil, et c'est vrai que d'une façon générale, nos contemporains ont tendance à oublier totalement les racines de l'arbre. Dans l'art, par exemple, les figurations de l'arbre s'arrêtent au niveau du sol.
Oui, alors... Les colonies d'arbres peuvent être virtuellement immortelles. Autre belle question. Après tout, à la différence des vivants, mais animaux, il y a presque une caractéristique d'immortalité chez l'arbre. Et certains ont dit que s'il n'y avait pas d'événements catastrophiques, ma foi, l'arbre perdure, l'arbre vit, l'arbre croît. D'où les âges records que peuvent
c'est
avoir
certains. C'est une notion que je crois le public doit acquérir. L'idée que certains arbres, et dans certaines conditions au moins, sont immortels. Dès l'instant que c'est coloniaire, ça ne devrait étonner personne. La bonne comparaison se fait ici avec le corail. Dans le corail, c'est pas le polype élémentaire qui vit très longtemps. Bon, à ma connaissance, c'est quelques mois seulement. Mais la colonie, elle, elle est immortelle puisqu'elle arrive à passer au travers des aires géologiques et à enfoncer les îles sous leur poids. Je crois que c'est pareil. Les unités réitérées ne vivent pas très longtemps, mais la colonie qui les englobe, elle, elle est immortelle. Les arbres immortels, on commence à en avoir une liste assez longue.
Oui.
L'idée n'est pas de moi, elle est très ancienne. On trouve ça déjà dans De Candolle, par exemple, des botanistes fameux des siècles passés qui ont dit ça, que l'arbre pouvait être immortel.
C'est une idée étonnante, non ?
Il n'y a pas de sénescence, vous voyez. Je crois que c'est ça la grande différence avec l'animal ou l'être humain. Nous avons une sénescence. Eh bien, les arbres, dans la mesure où vous regardez seulement la partie qui vient de se former, la plus récente, elle est totalement jeune. Il n'y a pas de sénescence.
Oui, c'est comme si nous croissions avec des petites mains toutes
neuves. Ah, mais il faudrait changer complètement notre manière de faire.
Vous est donc inconnu. À cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril?
Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu me rattrape, vois-tu, tout le temps perdu.
Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose.
Ah, si les palétuviers te font en frétiller, je veux bien essayer.
Ah, viens, soufflez pas.
Mais je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens en sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtus, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les biais. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser.
Ah, merci, je m'éblouis, un baiser c'est exquis. Mais dès qu'il l'aura pris, je vais être pour lui l'objet du mépris.
Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mes prix, car je suis pris mignonne.
Mon cœur est tout aux abats, je te donne au mouvement, mon corps au fond des bois.
Ah, viens sous les pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu?
Je suis ma tête sous les bons palétus.
Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les
je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtus, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les biais. Si je comprends bien, tu me veux manger sous les grands palais. Tu tiens. Palétuviers roses, aimons-nous sous les pâtus, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les biais. Si je comprends bien, tu me veux manger sous les grands palais. Tiens.
Alors, autre question encore, il y a des clones, vous dites Francis Allais.
Il y a des arbres clonaux, oui.
Oui, oui. Alors oui. Définition là encore.
Eh bien, supposer
par opposition à une par rapport à une reproduction sexuée où il y a une division.
Ah oui, une reproduction sexuée, c'est le fonctionnement naturel des fleurs. Vous obtenez des fruits puis des graines. Là, c'est la sexualité. Mais supposer un arbre dont les branches basses s'enracinent et se libèrent de la jonction avec l'arbre d'origine. Vous avez un clone. Beaucoup d'arbres sont clonaux.
Exemple.
Le palétuvier, par exemple, que tout le monde connaît le long des côtes tropicales.
Celui
là,
qui...
les éléments du clone, en plus, ils sont mobiles.
L'arbre qui marche.
L'arbre qui marche.
L'un des arbres qui
l'un
marche.
L'un des arbres qui marche. Celui qui marche le plus vite, semble-t-il.
Oui. Donc,
enfin, ça reste assez modeste. Et puis, est-ce que c'est vraiment marcher? Ça peut se discuter. Ces branches de palétuvier, elles poussent d'un côté, elles meurent de l'autre. C'est pas vraiment de la marche. Rien ne se déplace à proprement parler, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'empêche que... vous repérez une de ces branches individualisées comme ça, et puis 5 ans après, elle sera 5 ou 6 mètres plus loin.
Et l'arbre qui danse?
Ah mon Dieu, mais alors là, C'était une petite légumineuse du sud de la Chine, qui ne paye pas de mine d'ailleurs, mais qui a l'étonnante particularité que quand vous faites du bruit de vent, ses feuilles bougent. Ses folioles bougent, devrais-je dire, pour être plus précis. Et tant que vous faites du bruit, elle continue à bouger. Vous arrêtez de faire du bruit, elles se figent dans la position où elles étaient. C'est très étonnant, la plante qui danse.
Ça, alors.
Nous ne savons pas à quoi ça lui sert, ni comment elle fait pour danser. Mais la réalité est là. J'ai pu amener quelques graines en France, et on les voit danser maintenant au jardin botanique, les cèdres au Cap Ferrat. Je les ai vus il y a un mois ou deux.
Les arbres timides.
Et c'est aussi quelque chose de très fascinant. Là, ce qu'il faudrait, c'est une image, bien sûr. Les arbres timides, ils poussent côte à côte, sans problème, et puis au moment où leurs cimes pourraient entrer en contact, parce qu'elles sont devenues suffisamment grosses, eh ben, vous constatez qu'elles ne le font pas. Elles laissent entre elles une sorte de hiatus de 1 mètre.
Un écart, une distance.
Un écart, mais très visible depuis le sol. Et puis c'est définitif, ça ne se refermera jamais. L'arbre va pousser en hauteur, bien sûr, mais il ne poussera plus en largeur.
Très visible de la canopée.
Très visible de la canopée, très visible d'en dessous également.
Oui.
Alors, la première hypothèse était celle d'une abrasion. En cas de coup de vent, les arbres auraient frotté comme ça l'un contre l'autre. L'observation dans la canopée nous a démontré que c'était certainement pas vrai, parce qu'il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de nécrose. Les branches latérales ont simplement cessé de pousser, c'est tout. Elles savent d'une manière quelconque, entre guillemets, elles savent qu'il y a un obstacle et que cet obstacle est un autre arbre de la même espèce. Les timidités entre espèces différentes, elles peuvent sans doute exister, mais elles sont extrêmement rares. Donc d'une manière ou d'une autre, l'arbre, notre arbre, il sait que son voisin est ou n'est pas de la même espèce. Ce qui suppose pour ces arbres-là des organes d'essence que nous ne leur soupçonnions pas. Enfin, d'ailleurs, on ne sait toujours pas comment ils font, hein, j'insiste là-dessus. C'est un très beau phénomène, mais inexpliqué.
L'arbre timide est donc un bon voisin.
D'une oui, certaine et façon. Puis, c'est vrai. Il a aussi
sans d'autres... continuer plus avant avec des...
Avec l'anthropomorphisme.
Avec l'anthropomorphisme.
Mais... c'est aussi les plus grands arbres, hein, c'est ça qui est assez étonnant. Oui. On a l'impression que ne pouvant pousser en largeur, ils se mettent à pousser en hauteur.
Vous avez pris beaucoup de plaisir quand vous étiez dans le radeau des cimes, puisque vous en
oh,
êtes
bah, attendez, bien sûr. C'est ce que j'ai fait de plus intéressant dans ma vie. À la fois de plus intéressant scientifiquement et de plus amusant. Et aussi de plus riche humainement. Ah, c'est une période absolument étonnante. Ça continue, heureusement.
Ça continue,
Je m'en occupe plus directement, mais ça continue. Ouais.
On a reçu à ce même micro l'un des promoteurs actuels.
Oui, mais je sais qu'ils sont très actifs. On vient d'ailleurs de lancer un nouveau prototype dont il faudrait qu'on parle un jour. Ça marche très bien.
Oui. Et évidemment, cette vision d'altitude, si on peut dire, change tout.
Oh,
bon, dans la découverte, vous avez dit que le travail scientifique était important. Évidemment, on a découvert là, non seulement d'ailleurs, non seulement des aspects botaniques, mais aussi...
Non, mais toute la structure de la forêt.
Oui.
J'ai commencé à comprendre...
Entomologique.
Entomologie, bien entendu, zoologie en général.
Oui.
J'ai commencé à comprendre la forêt quand je l'ai vue de cette façon-là. Vous savez, c'est le vrai visage de la forêt, cette canopée. Ce qu'on voit depuis le sol, c'est vraiment l'envers du décor.
Vous allez y retourner bientôt ou pas?
En 2006, oui.
Très bien.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons. de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Francis Allais, vous avez levé le pouce à cette proposition musicale qui est de l'illustration, comme on dit dans le métier, quasiment presque directe. Le chêne.
Je voudrais dire d'abord que j'adore Sète et que j'adore Brassens. J'apprécie beaucoup que vous l'ayez choisi. Merci.
Alors, petit retour quand même, parce qu'un chiffre m'a frappé. Vous dites que sur les clones, en Pennsylvanie, un clone de la myrtille, alors je ne sais pas quelle est cette espèce de myrtille, s'étend sur 40 hectares et serait âgé de 13 000 ans.
Oui.
Ce qui veut dire que cette plante-là, elle aurait pu ou elle a peut-être été contemporaine de Néandertal.
C'est vrai, c'est des chiffres que nous donnent nos collègues nord-américains. Mais ce record est déjà battu par des Australiens.
Ah.
Ils ont en Tasmanie ce qu'ils appellent le hou royal, qui n'est pas vraiment un hou, c'est une protéacée, enfin bon, peu importe, 43 000 ans. Là, c'est vraiment le Pléistocène. Et puis, si j'ai bien compris, cet arbre n'a aucune raison de mourir. Il ne faut pas le concevoir comme un énorme arbre, mais plutôt comme une futaie d'arbres de taille moyenne qui s'agrandit par les bords, et donc on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Sauf évidemment événement extérieur, un feu ou, je ne sais pas, un coupeur de bois, tout simplement.
Oui.
C'est immortel.
40 hectares, c'est quand même... C'est une ferme moyenne à l'époque précédant les grands remembrements. 40 hectares, c'est effectivement...
Mais ça nous étonne, nous, en tant qu'animaux, excusez-moi. Mais en réalité, dans le domaine des plantes, ces dimensions-là et ces longévités-là ne sont nullement exceptionnelles. On a affaire à un autre ordre de grandeur.
Oui. Francis Allais, vous faites un chapitre qui s'intitule « Trois records
». Oui.
« Surface, vitesse, longueur ».
Oui.
Alors évidemment, quelle est la surface d'un arbre ?
C'est pas facile. Hein.
Oui,
il faut prendre
difficile.
Chaque feuille recto verso. Il faut développer au sens géométrique toutes les brindilles, toutes les branches maîtresses, le tronc. Il faut faire la même chose pour les racines. Vous comprenez bien dans ces conditions-là que ça ne soit qu'un chiffre approximatif. Et puis on a décidé de prendre non pas la surface de la feuille, mais la surface des cryptes qui captent le gaz à l'intérieur. Bon, bref, je passe sur les détails. Je suis arrivé à 200 hectares pour un arbre de taille tout à fait moyenne, hein, comme un platane le long du quai de la Seine. 200 hectares.
Oui.
200 hectares de surface d'échange avec le milieu.
Avec le milieu, oui.
C'est pour ça que quand un coupeur de bois, comme un forestier, coupe un arbre, on peut dire qu'il diminue la surface de la terre de 200 hectares. C'est comme ça que je voudrais présenter.
Oui, oui,
vous voyez,
oui.
Les surfaces d'échange diminuent avec cette importance-là. C'est énorme, c'est énorme. C'est des êtres immobiles qui vivent uniquement d'échanges, et donc il leur faut des surfaces d'échange énormes.
Vous rappelez d'ailleurs, pour un jeune châtaignier de 8 mètres, surface aérienne, 340 mètres carrés.
Alors la surface souterraine est généralement plus grande encore.
Eh bien oui, parce que la surface souterraine, c'est 1,25 hectares, cette fois pour un arbre de 50 mètres de haut.
Oui.
Surface externe et 160 mètres de surface souterraine.
On comprend, n'est-ce pas, que ces arbres-là soient des organismes immobiles. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec un fardage pareil.
Oui.
C'est totalement différent de la solution animale où on a des petites surfaces externes et donc une mobilité.
Autre question aussi que tout le monde peut se poser, que vous abordez d'ailleurs, c'est quel est l'arbre qui pousse le plus vite ?
Est-ce qu'on... Oh, ça c'est tout à fait étonnant. Oui, oui. Je me souviens quand j'habitais la Côte d'Ivoire, j'ai semé une graine de schizolobium et en un an j'avais un arbre de 9 mètres. Je pensais que c'était le record à l'époque. Je vois que les Paracerianthes de Bornéo, ils sont un petit peu plus rapides. Mais enfin bon, c'est de cet ordre-là, un mètre par mois. Et comme il s'agit d'arbres de la région équatoriale, ça pousse toute l'année. Donc vous pouvez avoir 12 mètres en un an. C'est très étonnant.
Ah oui, surtout si en plus on joue à la prise de vue, qu'on prend chaque mois une photo de l'arbre et qu'on les met à côté, on aura une sorte de film lent et rapide à la fois, compte tenu de cette extraordinaire vitesse de croissance. Quoi.
Je précise que la vitesse que j'indique ne comporte pas les racines, donc oui. Elle est sous-estimée, n'est-ce pas ? Ça pousse par les deux bouts.
Quelle est la plus grande feuille du monde, puisqu'on est au moment des records ? C'est un petit peu le livre des records, mais là encore, c'est très intéressant.
Écoutez, oui, je suis très très fier de ça. C'est dans ma carrière de botaniste, ça a été un moment très important.
Oui.
La découverte du Raphia regalis dans la forêt du Congo. On ne voyait pas le haut des feuilles parce que c'était perdu dans la canopée. Alors on en a fait tomber une au hasard. Et elle avait 25 mètres de long sur 4 de large. C'est-à-dire que, en une seule fois, on a double, non pas pulvérisé le record précédent, mais on l'a complètement doublé.
25 mètres de longueur, 4 oui. mètres de large, poids approximatif, puisque vous n'avez pas pu la peser, 100 kilos.
Une centaine de kilos.
Oui, il vaut mieux pas se ramasser une feuille comme ça sur la tête.
Hein. Non. D'ailleurs, il faut préciser que l'arbre en question n'a que 6 ou 7 feuilles, pas plus.
Oui.
Ça lui suffit.
Et elles sont comment ? Avec des grandes nervures ?
Écoutez, c'est comme une feuille de cocotier, mais beaucoup plus grand. Et la base est plantée dans le sol. Et de fait, si vous écartez le sol, tout ça ne tient plus et ça s'ouvre. Ça tient par la résistance du sol.
Et vous avez eu du mal à la couper ?
Oui, c'est très dur. J'étais bien secondé par des amis africains qui m'ont bien aidé.
Qu'est-ce qu'il faut retenir encore dans ces extrêmes du petit livre des records des arbres, Francis Allais ? Qu'est-ce que vous retiendriez encore ?
Je crois que je voudrais insister sur la longévité, sur le caractère immortel, parce que on commence à en savoir un petit peu plus sur cette immortalité des arbres, et des plantes en général d'ailleurs. On commence à savoir pourquoi ils n'ont pas de sénescence, alors que nous autres pauvres animaux, nous en avons une. Des collègues espagnols ont mis en évidence qu'au moment de la reprise de croissance au printemps, il y a une suppression de la méthylation des gènes. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais les gènes s'éteignent à mesure que le temps passe par méthylation. Chez nous, ça court sur la totalité de la durée de la vie, et c'est ce qui explique la sénescence. C'est une des explications de la sénescence, parce qu'il y en a d'autres. Chez l'arbre, tout ça est remis à zéro au début du cycle de croissance, qui généralement est annuel. Et ça serait pour cette raison que la plante n'a pas de sénescence. Ça, je trouve que c'est un acquis scientifique de tout premier plan.
On peut d'ailleurs, dans cet ordre d'idée aussi, rappeler que l'arbre est présent depuis longtemps. On va développer cette idée en particulier sur les conclusions de votre ouvrage qui pourraient être évidemment objet à controverse. Mais dans la constitution de la biosphère, dans la constitution, l'arbre est essentiel.
L'arbre
c'est d'abord
essentiel.
Le premier acteur.
Et essentiel depuis le début, oui. Pour ce qui concerne les terres émergées, bien sûr.
Je ne parle pas
du milieu marin.
Oui.
Mais
c'est
le dévonien. Hein.
Oui.
C'est depuis le dévonien, nous n'avons jamais cessé d'avoir des arbres et des forêts sur cette planète.
Oui, et c'est un être qui n'est pas hétérotrophe. C'est bien ça.
Non, c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui a motivé ma passion.
Il ne mange pas les autres.
Il ne mange pas les autres, non. Et il mange des choses totalement triviales. Quelques sels minéraux dans le sol, l'eau du sol, le carbone du gaz carbonique de l'air et la lumière solaire. Vous conviendrez que c'est vraiment des ressources extrêmement abondantes et presque triviales.
Oui.
Mais en outre, comme c'est, il n'y a pas besoin de mouvement, puisque... Il n'y a pas besoin de se déplacer, ces ressources seraient les mêmes un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très différent de l'alimentation animale, en effet, où il faut aller au-devant d'une proie.
Un mot sur ces arbres des Canaries, qu'on appelle des arbres à eau, je crois.
L'arbre fontaine.
L'arbre fontaine.
Ah, c'est tout à fait étonnant, ça, oui.
C'est
dans l'île de Hierro, une petite île de l'archipel des Canaries. Et les premiers navigateurs européens qui sont venus là se sont aperçus que les populations locales, qui étaient des guanches, se baignait en se mettant sous l'arbre fontaine. Et sous cet arbre, il pleut en permanence. C'est presque incroyable, mais c'est comme ça. On a des estampes de l'époque qui montrent des gens en train de se doucher ou de remplir leur cruche sous l'arbre fontaine. C'est un arbre de la famille des lauracées, du laurier, la même famille que notre laurier sauce. Et l'explication est la suivante. Il ne pleut pas dans ces îles, ou très très peu, mais par contre, il y a des nuages qui passent sans arrêt. Et la frondaison de l'arbre fontaine se contente de capter l'humidité et de la faire couler sous forme de petits jets d'eau. L'arbre fontaine.
On peut utiliser aussi le baobab, comme cette fois arbre citerne. On peut creuser dedans et avoir une réserve d'eau, même pour la période sèche.
Oui. Dans les régions sèches, les gens ont été obligés de
mettre trouver au point des combines.
Ouais. Alors, c'est vrai, ils creusent un puits dans le tronc du baobab. Ils profitent de la brève saison des pluies pour remplir le puits. Puis ils le bouchent, c'est bouché en haut. Et puis en bas, on met un tuyau avec un robinet et vous avez de l'eau fraîche pendant toute la saison sèche.
L'arbre, l'eau du baobab. Alors, citation, elle est d'un auteur du 19e. Son odeur, personne n'oserait appeler un parfum. Et si puissante, si indescriptible et en même temps si suggestive qu'il est difficile de la décrire à l'intérieur de la garder, pardon, à l'intérieur de la maison. S'il vous est possible d'imaginer ce que donnerait un mélange de farine et de fromage pourri, de nectarine et de noisettes pilées avec une pointe d'ananas, d'une cuillère de vieux Jerez bien sec, de pulpe d'abricot avec un soupçon d'ail, le tout chargé en une crème épaisse, alors vous avez une vague idée de ce qu'est le durian. Vous aimez le durian parmi
ça me fait drôle.
Tous les fruits. C'est...
J'aime bien cette citation parce que visiblement l'auteur se donne beaucoup de mal pour décrire l'odeur du durian, mais c'est strictement indescriptible. Je crois qu'on ne peut en avoir une idée qu'en essayant soi-même. Oui, le durian, j'adore. C'est vraiment un fruit que je mets parmi les tout premiers au monde, très largement au-dessus de tous nos fruits d'Europe. Mais ça suppose une certaine initiation, comme tout ce qui est vraiment important et difficile. Les Européens, d'ailleurs les Asiatiques non plus, n'aiment pas le durian du premier coup. Et puis certains ne l'aiment jamais, ça existe aussi.
C'est vrai qu'on pourrait rajouter une petite odeur de vomi, on pourrait rajouter beaucoup de qualificatifs.
Chaud, oui.
Alors, en tout cas, on en trouve à Paris.
Oui, à Montpellier aussi.
Voilà, on en trouve et on voit toutes les populations asiatiques avec un soin méticuleux qui les pèse, les soupèse, les
passion,
sente.
N'est-ce pas oui. C'est une passion pour les Asiatiques, qui sont d'ailleurs prêts à engloutir des sommes considérables dans l'achat d'un durian.
Alors c'est un gros fruit épineux.
Oui, c'est la taille d'un ballon de rugby, d'un peu la même forme, mais couvert de fortes épines, de sorte que si vous l'avez dans la paume de la main, c'est douloureux.
Oui, 5 kilos, c'est...
Et il faut pas le recevoir, ça tombe d'un arbre qui a 30 à 40 mètres de haut.
Oui, là vous êtes rayé de la carte.
Ah, complètement.
Oui.
Un fruit absolument étonnant.
Alors vous rappelez simplement, parce qu'on pourra en parler longtemps du durian, c'est que ceux qui les récoltent, ils ont des plantations qui sont parfois loin dans la forêt, et donc attachent les fruits avec une ficelle pour pas se les faire voler. Et qui se retrouvent pas sur le sol, où l'onomatopée fait bloom, je crois, et chpouing, je ne sais pas.
J'ai pris ça dans un auteur malais de bande dessinée, et c'est très très bien décrit. Il faut dire que là-bas, c'est l'objet d'une telle passion de la part de tout le monde. Alors c'est vrai qu'ils attachent les durians en haut des arbres à leurs propres branches, ce qui fait qu'ils doivent monter pour mettre le lien. Et ils doivent remonter pour le couper. Mais ça vous donne une idée de la passion que ça soulève.
Alors cela dit, dans certains aéroports, avant de prendre l'avion, il y a marqué « durian forbidden ».
Ouais, et dans les hôtels aussi, dans les grands hôtels. Parce que dans les petits hôtels sympathiques que fréquente la population indonésienne, par exemple, les durians sont non seulement acceptés, mais vraiment les bienvenus.
Oui. Il y a un mucilage important qui te...
Oui, c'est une arille en termes techniques. Ça ressemble à du coulant de camembert. Ça en a d'ailleurs un peu la couleur et la consistance. Mais c'est infiniment meilleur, quel que soit mon respect pour les fromages français.
Et avec des grosses graines, donc on peut que conseiller aux gens d'aller essayer de goûter les durianes en allant du côté du 13e arrondissement. Là, ils en trouveront à tout coup.
Si tu étais un arbre, mon amour, je te ferai sapin, sapin, sapin pour faire un mât. Si tu étais un arbre, mon amour, je te ferai sapin, sapin droit et le pied marin.
Si tu étais un arbre, mon amour, je te ferais boulot, boulot, boulot pour faire la coque. Si tu étais un arbre, mon amour, je te ferais boulot, boulot pour le pont du bateau. Pour tailler la grand voile, si tu étais d'étoffe, je te ferais de toile, je te ferais de lin, et tu franchirais l'eau pour des pays lointains. Si tu étais de plume, mon amour, tu serais cormoran, tout blanc, te perdant dans les brumes. Si tu étais de plume, de plume, mon amour, tu serais cormoran, d'eau bleue, d'eau verte ruisselant. Si tu étais d'écaille, d'écaille, mon amour, je te voudrais dauphin, dauphin, prince des baladins. Si tu étais d'écaille, d'écaille, mon amour, je te voudrais dauphin, dauphin dansant dans les embruns. Mais si tu étais meuble, je te construirais lit dans le bois d'un tilleul pour y cacher tes nuits à l'avant du bateau, mon tendre et merveilleux et solitaire enfant, mon tendre et solitaire et merveilleux enfant, mon fils.
Alors pour finir, bah vous vous lancez dans des thèses, on va dire, ambitieuses en tout cas, Francis Allais, à la fin de votre ouvrage. Ambitieuse, on va dire. Vous dites dans un chapitre qui s'appelle Notre héritage arboricole, d'abord qu'il y a une très très longue
coexistence.
Vous parlez même de coévolution. Oui, dans quel sens vous l'entendez?
Je pense
que cela dit, l'homme a pris beaucoup, vous dites, à l'arbre et il lui a peu donné.
Ça me paraît incontournable. Qu'est-ce que nous avons donné à l'arbre? Oui, on lui a donné un petit peu. On amène des arbres exotiques dans tel ou tel endroit. Bon, on les améliore. On les améliore
pour nous,
oui. Pas pour eux. Non, on a très peu donné aux arbres. Par contre, les arbres, je crois, nous ont énormément donné. Et je pense, je pèse mes mots, c'est ça le fond de mon hypothèse. Elle demande bien sûr à être discutée. Nous leur devons notre nature d'être humain. Vous savez, on s'est très longtemps demandé, on se demande encore pourquoi l'être humain est vertical. Il y a très peu d'animaux verticaux. Et puis, les quelques autres exemples d'animaux verticaux, ce n'est pas la même verticalité que nous. Je pense notamment au manchot empereur qui s'appuie à la fois sur ses pattes et sur sa queue. Bon, mais notre verticalité, elle a un côté unique. Je pense qu'elle nous vient de l'arbre. Elle vient de notre possibilité, de la possibilité qu'avaient nos ancêtres de grimper. Et puis elle vient aussi de la brachiation, qui est cette manière de se déplacer, vous voyez, sans utiliser les pieds, mais en allant d'une branche à l'autre, comme ça.
Oui, c'est par un grand balancement.
C'est absolument magnifique. Si vous avez
les gibbons,
vu les gibbons, c'est
oui,
magnifique.
C'est splendide, oui.
Eh bien, si vous prenez un primate brachiateur et que vous le mettez au sol, d'ailleurs ils descendent de même de temps en temps, ils marchent sur deux pieds. Ils sont verticaux et ils marchent sur deux pieds. Je crois que notre verticalité, notre bipédie aussi, sont héritées de cette période-là, de notre période de primates brachiateurs.
Arboricole.
Arboricole. Alors, on en a des tas d'autres exemples. Le fait que notre pouce, par exemple, le pouce des mains, soit opposable à chacun des autres doigts, ça, c'est facile de comprendre que c'est une adaptation à la saisie des branches. Et comme le disent les paléo-anthropologues, on est passé des branches aux manches de l'outil, ou d'ailleurs au volant de la bagnole, c'est pareil. C'est à peu près, c'est facile à saisir. Ça, c'est un héritage arboricole.
Par contraste temporel, vous dites que les arbres sont apparus il y a 380 millions d'années.
Et nous, on est bien jeunes devant tout ça.
Le genre homo, 3 millions d'années, quoi. Oui. On est vraiment,
Et l'espèce humaine, telle que, à laquelle nous appartenons, vous et moi, c'est 300 000 ans.
Ouais,
c'est
ça.
C'est rien, enfin.
Les primates, donc seigneurs des arbres, est-ce qu'ils en fonction, dans ce cas-là, on aurait une coévolution intéressante, peut-être, quand on disait qu'on leur a peu donné, et vous dites qu'on leur a plutôt apporté souvent le cauchemar dans le rugissement des tronçonneuses, mais est-ce qu'on peut imaginer une coévolution qui viendrait aussi dans la bonne dispersion que peuvent faire, ils sont pas les seuls, certains oiseaux le font, mais ces primates des graines des arbres.
Oh, bien sûr, oui. Les primates sont des très grands disperseurs de graines, et pour ça, il faut les attirer. C'est la fonction du fruit. Les fruits sont beaux, très visibles, très odorants, pensez au durian. Eh bien, tout ça, c'est des moyens que l'arbre a mis en place pour nous attirer, de sorte que nous dispersons les graines. Il ne faut pas y voir une intention, je ne suis pas du tout finaliste, mais c'est des phénomènes tout à fait darwiniens. Ça marche extrêmement bien. De fait, notre vie dans la canopée nous a obligés à acquérir un certain nombre de réflexes. La possibilité, par exemple, de voir le relief, ça c'est fondamental. Quand on vit dans la canopée, si on ne voit pas quelle est la branche qui est devant, quelle est la branche qui est derrière, je veux dire, si on n'a pas une claire perception du relief, la sanction est immédiate, c'est la chute et la mort. Donc la sélection darwinienne, là, elle joue à plein. C'est ce qui expliquerait que nous ayons les yeux en façade.
Oui.
Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de nos caractéristiques en tant qu'être humain qui nous proviennent, à mon avis, de notre héritage arboricole. Les arbres nous ont fait ce que nous sommes.
Vous êtes appuyé dans ces thèses par les théories ou les considérations de paléontologues ?
Je ne les connais pas personnellement, ces paléontologues, mais j'entends souvent un collègue du Collège de France qui s'appelle Pascal Pic. Il me semble qu'il est tout à fait de cet avis. Quand je lis ses écrits, je me sens fondé à développer ce genre d'hypothèse. J'aimerais parler avec lui de ça. Je crois qu'il n'a aucune objection à notre héritage arboricole.
On peut imaginer un temps, parce que c'est une, à l'origine, c'est une des thèses de d'Yves Coppens, c'est que
Coppens également.
Voilà, oui. Il y a eu pendant longtemps, et pour des raisons climatiques, une majorité de forêts.
En
Afrique de l'Est, oui. Et puis d'un seul coup, avec certains changements, en plus l'alternance des saisons, sont arrivés des moments secs, et puis donc des savanes arborées, donc des terrains pleins, des terrains à découvert.
Avec des grandes herbes, et l'hypothèse classique, c'est que nous avons dû nous dresser pour voir au-dessus des herbes. Je crois savoir que cette hypothèse maintenant est abandonnée, en tout cas largement battue en brèche. Notre verticalité, notre bipédie, précédait l'apparition des savanes. Nous l'avions déjà en tant que primate arboricole.
Oui. Et puis toujours le même réflexe, c'est-à-dire en cas de danger, hop, on grimpe vite dans l'arbre.
Mais attendez,
le cas de Lucie.
Quand je suis dans une forêt équatoriale et que j'entends un très gros animal, je ne sais pas encore ce que c'est peut-être dangereux.
Un jaguar.
Je cherche un arbre. Je cherche un petit arbre facile à grimper, parce qu'évidemment, on a perdu un peu de l'habileté de nos ancêtres. Mais c'est encore maintenant un bon réflexe, grimper dans un arbre pour se mettre à l'abri du prédateur.
Un réflexe archaïque, mais qui ressurgit.
Donc. Et absolument, qui ressurgit. Et je ne suis pas le seul, tout le monde fait comme ça.
Oui. Donc, l'humanité, vraiment, est sans des arbres.
J'espère que ça ne vous choque pas.
Ah non.
Moi, j'en suis enchanté, bien sûr.
Bien sûr que non,
arbres,
non.
Toute mon estime et toute mon admiration, donc je suis très heureux qu'ils aient joué un rôle dans mon apparition en tant qu'être humain.
De toute façon, les arbres descendent aussi des algues bleues à l'origine, puisqu'on pense que c'est les premiers. Donc, toutes les lignes généalogiques...
Si vous les remontez suffisamment haut, vous allez arriver aux bactéries, ça,
et
c'est
oui,
sûr.
Exactement. Et nous sommes, d'une certaine manière, tous cousins, quoi.
Oui.
Voilà, selon le temps et la diversification évolutive.
Et je trouve ça assez admirable, à condition qu'on ne refuse pas le principe de l'évolution.
Bien sûr. Alors, peut-être pour finir, Francis Allais, Est-ce que vous êtes pessimiste quand vous voyez que des hectares entiers sont abattus de manière terrible dans des forêts primaires, dans le sud-est asiatique, en Amazonie, ainsi de suite?
Je suis non seulement pessimiste, mais
le rugissement des tronçonneuses est universel.
Ça, c'est mon quotidien dès que je mets les pieds dans les forêts équatoriales. Je suis horrifié du comportement de l'être humain. Un mélange d'affairisme, de lâcheté politique et d'âpreté vis-à-vis du bénéfice monétaire, simplement, c'est en train de ruiner notre planète. Et tout le monde s'en fout. Je n'ai pas réussi à convaincre le moindre politique, qu'il soit de droite ou de gauche, à s'intéresser vraiment à ce problème-là. Nous sommes en train de détruire notre planète. Pour les forêts équatoriales, je crains de devoir le répéter, c'est déjà foutu.
Déjà foutu.
Ouais. C'est-à-dire, je veux dire par là, il reste encore un tout petit peu de forêt primaire entre les deux tropiques, mais aurions-nous la volonté politique, le soutien populaire et des financements massifs, il serait trop tard pour les préserver. Parce qu'il y a une latence dans ces phénomènes forestiers.
C'est terrible.
C'est terrible, oui. C'est terrible, mais notre planète est très très mal partie.
Bien sûr. Et pas que de ce point de vue-là, en tout cas.
Pas que de ce point de vue-là.
Et quand on constate que, par exemple, je ne sais pas quelle est la limite de temps, mais que la France est de plus en plus boisée.
Alors, oui,
ça, c'est un contre-exemple un peu ridicule,
non,
un peu
mais
parcellaire.
Attendez, on retombe toujours sur cette dissymétrie entre les pays tropicaux pauvres, abandonnés, pillés, et les pays tempérés qui, eux, s'enrichissent. La forêt en France n'a jamais été aussi bien, à ma connaissance. Enfin, je vois dans la région où j'habite, depuis 30 ans, les forêts ont progressé énormément. La forêt va très bien chez nous. Alors, bien sûr, il y a des feux dans le midi, des pluies acides dans le nord-est, ok, mais c'est pas important. La forêt va de mieux en mieux en Europe. Par contre, dans les pays tropicaux, on a l'impression que ça n'a pas d'importance. Ça se passe très loin de chez nous et ce qui se passe là-bas ne nous intéresse pas. Enfin, on essaye d'en retirer des ressources, c'est tout. On a une planète horrible.
Certes. Est-ce qu'on peut imaginer l'analogue? En tout cas, certains disent que il est bon d'avoir des espèces rares que l'on conserve dans les zoos, avec l'idée que, en plus, en mélangeant les poules génétiques, avec l'idée de, et ça s'est fait parfois, on pense au cheval de Przelewski, de réintroduire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer de grands arboretums quelque part qui préserveraient toutes ces essences de la zone intertropicale et que l'on pourrait essayer
Ça n'existe pas. Il y a des arboretums, mais ils ne sont pas grands, justement. Il y a un ou deux exemplaires de chaque espèce de la région, mais évidemment, avec un ou deux exemplaires d'une espèce d'arbre, vous ne sauvez pas l'espèce. Il faudrait des peuplements.
Oui.
Aucun arboretum, à ma connaissance, ne contient de peuplement des espèces qu'il conviendrait de sauver. Non, non, nous ne sommes pas équipés du tout pour faire face à la disparition des forêts tropicales.
Peuplement, c'est à partir de combien d'individus? C'est variable.
C'est variable, bien sûr, en fonction de la biologie sexuelle de ces plantes. Mais il me semble qu'une trentaine ou une quarantaine d'arbres, ça, c'est un minimum.
Alors, face à ce constat pessimiste, et ça sera ma dernière
Désolé,
question...
Désolé, je ne suis pas pessimiste fondamentalement.
Bien sûr, mais ça se...
C'est sur ce point-là que je suis pessimiste.
Oui, ça se construit à partir d'un constat de ce que vous savez. Votre, en tout cas, face à ce pessimisme obligé mais tempéré, est-ce que vous avez toujours la même fougue et la même foi du point de vue scientifique pour élaborer là encore et faire avancer la compréhension de vos amis, les verticaux, immortels?
Je constate que les plantes, elles n'ont pas de voix pour se défendre. Et puis c'est trop facile de couper un arbre. N'importe quel idiot avec une scie à chaîne, il met 5 minutes pour couper un arbre qui a peut-être une dizaine de siècles. Il faut bien que quelqu'un prenne leur défense. C'est ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin.
Écoutez, on ne peut que recommander en tout cas cet ouvrage qui en plus est magnifiquement édité. Je ne vais pas dire seulement illustré, mais édité avec des encarts, avec des citations anciennes.
L'éditeur a fait un très bon travail.
Oui, je crois qu'on peut le dire. Oui. Francis Allais, donc Plaidoyer pour l'arbre, c'est aux éditions Actes Sud. C'était Continent Science, Ariane Herbé, Céline Leclerc, Brigitte Aléo, Stéphane Delisgeorge. Si vous voulez nous écrire ou si vous voulez nous réécouter, n'importe où, n'importe quand, reportez-vous au site internet franceculture.com. Merci de votre attention, surtout merci de votre fidélité et bonne fin d'après-midi sur France Culture.
All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets.